VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous en direct de Washington. Ravi de vous retrouver en ce lundi 2 février 2018 pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. À la une ce soir, en Guinée, résultat d'ici à vendredi des élections locales de dimanche. Un mort dans des affrontements ce lundi. En République centrafricaine, un premier groupe d'anciens rebelles intégrés à l'armée. Nouvelle peine de prison pour l'opposant éthiopien Bekele Gerba après avoir été inculpé d'incitation à la violence. En Syrie, au moins 28 morts dans des frappes aériennes sur la Ghouta orientale, dernier grand bastion des rebelles. En fin de magazine, visite guidée au zoo d'Abidjan.
Un parc qui renaît de ses cendres.
Pendant la crise, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts, puisque si vous savez que les hommes se disputaient les dernières baguettes de pain dans les boutiques, il n'y avait pas de manger non plus pour les animaux, surtout les carnivores qui ont payé quand même un lourd tribut.
Et puis à venir dans la Minute Éco, la RDC limite les vols de Brussels Airlines sur Kinshasa. Et en sport, retour sur la victoire du Maroc au CHAN 2018. En Guinée, le président de la commission électorale, Amadou Salif Kébé, a promis aujourd'hui une publication d'ici la fin de la semaine des résultats des élections locales d'hier. Je demande aux uns et aux autres de se calmer, qu'il n'ait pas peur des résultats, a affirmé Monsieur Kébé. Des responsables de l'opposition comme du pouvoir ont évoqué des fraudes lors de ces premières élections locales depuis 2005. À Kindia, dans l'ouest, des affrontements ont fait un mort et plusieurs blessés ce lundi. Les heurts se sont produits lorsque les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les militants de l'opposition qui entouraient un centre de comptage des votes où le candidat du pouvoir a reçu le renfort de 2 ministres natifs de la ville. La CENI espère publier les résultats vendredi donc. En Centrafrique, un premier groupe d'une centaine d'anciens rebelles ayant participé au projet pilote du programme de désarmement a été intégré à l'armée nationale après 4 mois de formation. Le président Faustin Archange Touadéra, présent à la cérémonie à Bangui, a exprimé son grand plaisir de voir ces résultats, reconnaissant que l'immense chantier du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, c'est le DDR, n'a pas eu de réel succès par le passé. 2 attaques séparées perpétrées dans l'extrême nord du Cameroun et au Nigeria ont fait au moins 8 morts ce week-end. Toutes 2 ont été imputées aux djihadistes nigérians de Boko Haram. Compte rendu, Abdourahman Adia.
Au Cameroun, dans la région de l'extrême nord, 6 personnes ont été tuées par des membres présumés du groupe Boko Haram dans la nuit de dimanche à lundi, selon le correspondant de VOA Africa, Yaoundé. Le bilan fait aussi état d'une centaine de maisons incendiées. Les assaillants ont également brûlé une église et 4 boutiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est frontalière du Nigeria, où le groupe islamiste a aussi mené une attaque dans le nord-est, faisant 2 morts. L'attaque a été menée hier soir dans le village d'Alaou Kofa, près de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Selon un habitant, les 2 victimes ont été brûlées vives et le village a été entièrement incendié. Il a ajouté que les membres de Boko Haram étaient venus pour voler du bétail, mais qu'ils ont été contraints d'abandonner les troupeaux à l'arrivée des soldats nigérians.
Au Niger, 10 d'opposants qui manifestaient contre les bases militaires étrangères implantées dans le pays ont été interpellés dans la nuit de dimanche à lundi à Niamey. Ils dénonçaient également les nouvelles hausses d'impôts entérinées dans le budget 2018. De la capitale nigérienne, le récit d'Abdoul Raza Idrissa.
Selon la présidente du Front de l'opposition indépendante, Madame Bayar Mariama Gamache, les 10 militants sont actuellement auditionnés au niveau de la police judiciaire pour tapage nocturne. Ce nouveau front a quitté le regroupement des partis politiques de l'opposition il y a quelques mois pour notamment son laxisme, a en effet appelé à un sit-in dimanche matin à la place Toulouse. Du fait de la forte mobilisation, les participants ont décidé de continuer à rester jusqu'à tard dans la nuit. Et c'est là que sont intervenus les arrestations, dont le porte-parole du front Alassane Intikar qui déclarait dans la matinée ceci.
Et premièrement, c'est les bases militaires. Par comment ces gens-là qui ont des drones, qui ont des matériels sophistiqués, qui ont des avions. Et les djihadistes viennent attaquer nos militaires, tuer nos militaires, et ils ne voient rien. On est venu ici pour leur dire de dégager.
L'autre mobile de la manifestation, c'est la protestation contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2018, mesures jugées antisociales et contre lesquelles la société civile nigérienne appelle elle aussi à manifester pour la troisième fois dimanche prochain à Niamey et dans les grandes villes du pays. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Toujours au Niger, plusieurs chaînes de radio et télévision et des journaux privés ont déclenché ce lundi une journée de protestation contre une opération de contrôle fiscal qui, selon eux, vise à les étouffer. Au moins 5 groupes de radio-télévision sur la dizaine qui émettent dans la capitale ont cessé d'émettre ce lundi matin. Un appel à la grève des taxis au Gabon contre la hausse du prix du carburant a été moyennement suivi ce lundi à Libreville. Les 4 syndicats des chauffeurs de taxi ont menacé d'une grève générale et illimitée mercredi si le gouvernement ne répond pas à leurs préoccupations. Un colonel déserteur de l'armée congolaise a été extradé ce lundi vers la République démocratique du Congo depuis la Tanzanie. Le colonel John Chibangu, 48 ans, avait été arrêté à l'aéroport de Dar es Salaam il y a une semaine. Il avait menacé de chasser le président Joseph Kabila du pouvoir. Un autre déserteur, le capitaine Freddy Libeba, a été arrêté ce lundi également en Centrafrique. D'après Kinshasa, ils sont accusés de rébellion qui est punie généralement par de lourdes peines en RD Congo, d'après un magistrat. Un dirigeant de l'opposition éthiopienne, Bekele Gerba, a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison pour outrage à magistrat. Bekele Gerba, vice-président du Congrès fédéraliste Oromo, a été arrêté en décembre 2015. Il a été inculpé dans un premier temps d'appartenance à un groupe terroriste, puis uniquement d'incitation à la violence. Il a levé la main quand le juge s'est adressé à lui. Il ne s'est pas levé et les juges ont considéré que cette attitude relevait de l'outrage à magistrat, indique son avocat. Le mois dernier, il avait également été condamné à 6 mois de prison pour avoir entonné un chant politique en plein tribunal. Le jugement sur l'accusation d'incitation à la violence est attendu le 7 mars. Plus de 2000 détenus politiques ont été libérés en Éthiopie depuis janvier dernier. L'Union européenne a estimé qu'il y avait une forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale avec la mort d'un opposant en garde à vue et plus de 130 personnes détenues arbitrairement depuis les dernières élections. La Guinée équatoriale, un des plus gros producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, mais dont la grande majorité des 1,2 million d'habitants vit dans la pauvreté, est dirigée de façon autoritaire par le président Obiang Nguema depuis 1979. Le pouvoir a obtenu 99 sièges sur 100 au Parlement aux élections de novembre. Je vous le disais, la direction du Congrès national africain se réunit en urgence aujourd'hui pour débattre de l'avenir du président sud-africain Jacob Zuma au pouvoir depuis 2009. Les derniers développements avec Eric Manirakiza.
Les partisans du nouveau chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, font tout pour empêcher Jacob Zuma de prononcer son discours jeudi. En revanche, les alliés de M. Zuma estiment qu'il doit terminer son mandat qui expire en 2019. Pour trancher, le comité de travail de l'ANC, composé de 26 membres, est en conclave, mais cette instance dirigeante n'a pas le pouvoir de le destituer. Elle doit se référer au comité exécutif national. D'après le numéro 3 du parti, Gwede Mantashe, l'exécutif de l'ANC a rencontré hier soir le président Zuma à Pretoria pour parler de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'ANC et du pays. M. Zuma a refusé de démissionner, selon un membre de l'ANC très bien informé des débats internes. Les pro et anti-Zuma ont manifesté aujourd'hui devant le siège de l'ANC à Johannesburg. Au Parlement, les députés de l'opposition ont déposé une nouvelle motion de défiance qui sera soumise au vote le 22 février.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international en Syrie, nouvelles frappes aériennes meurtrières sur la Ghouta orientale, secteur tenu par les rebelles à l'extérieur de Damas, la capitale. Un dernier bilan fait état d'au moins 28 civils tués, dont 7 enfants. Les détails avec Salwa Jaafari.
Les images diffusées ce matin par le groupe des casques blancs sont choquantes. On y voit une opération de sauvetage d'un bébé extirpé des décombres. Beaucoup n'ont pas eu la même chance. Les djihadistes russes ont intensifié leurs bombardements sur les villes tenues par les rebelles. La veille, ces derniers avaient abattu un avion de guerre russe et tué son pilote. Les frappes les plus meurtrières ont visé la localité de Beit Sawa, où 9 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime du président Bachar al-Assad bombarde quasi quotidiennement la route orientale. À Sarakeb, dans le nord-ouest du pays, 5 personnes ont été traitées pour asphyxie.
Après 10 minutes, nous avons commencé à étouffer. Certains ont commencé à vomir et d'autres criaient. Ensuite, l'équipe de la protection civile nous a sauvés et nous a conduits à l'hôpital.
Assiégée depuis 2013 par les forces du régime, les quelques 400 000 habitants de cette zone rebelle vivent déjà une grave crise humanitaire avec des pénuries de nourriture et de médicaments.
Également dans l'actualité, le président américain Donald Trump a critiqué aujourd'hui le système de santé publique du Royaume-Uni, le NHS, en passe de faire faillite. D'après lui, s'attirant une réplique cinglante du ministre britannique de la Santé, Jeremy Hunt. Et voilà pour l'actualité africaine et internationale sur VOA Afrique. Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La RDC a réduit à 4 les vols de Brussels Airlines vers Kinshasa. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Jusque-là, la compagnie belge effectuait 7 vols par semaine. L'autorité de l'aviation civile à Kinshasa déplore l'absence de réciprocité dans l'exploitation des services aériens entre la RDC et la Belgique. Récemment, Kinshasa a aussi signifié à Bruxelles la fermeture de son agence de développement Inabel et celle de la Maison Schengen, le consulat de l'Union européenne en RDC, géré par la Belgique. Au Nigeria, le plus grand syndicat du port d'Apapa menace de bloquer tout accès des marchandises dans le pays. Il exige la réparation de la route qui mène au port devenu impraticable, paradis des criminels. Pour contourner ces problèmes de sécurité et logistique, les importateurs utilisent le port de Cotonou au Bénin voisin. La directrice générale des autorités portuaires du Nigeria a estimé qu'il faut développer de nouveaux moyens de transport, des trains et des voies fluviales. En Afrique du Sud, la population de la mégapole du Cap fait face à la pénurie d'eau potable avec un risque de coupure de l'eau des robinets pour cause de sécheresse.
Maintenant, condensé de l'actualité sportive, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Le premier gros titre, le Maroc remporte à domicile le CHAN 2018.
Et avec la manière devant son public et les 45 000 spectateurs de Casablanca, le Maroc a clôturé le championnat d'Afrique des Nations de football 2018, comme il l'avait ouvert, par un beau festival offensif, une victoire 4-0 face au Nigeria. Et dans la petite finale, samedi comme en 2011, le Soudan monte sur la troisième marche du podium en s'imposant à Marrakech au tir au but face à la Libye, sacrée en 2014. Les Focaux de Djedian, qui avaient ouvert le score en début de match avant de se faire rejoindre par les Libyens dans les dernières minutes, ont été les plus adroits au pénalty. 4 tirs au but à 2.
En Europe, les buteurs africains sont en forme.
Inarrêtable Mohamed Salah, le virevoltant pharaon est toujours aussi décisif pour Liverpool, à l'image du doublé inscrit contre Tottenham, match nul 2 buts partout, dans l'un des chocs entre deux prétendants à la Première Ligue. Ce doublé lui permet de revenir à une longueur de son adversaire du jour, Harry Kane, meilleur buteur du championnat avec 22 buts. Début réussi aussi pour Aubameyang à Arsenal. Le Gabonais, arrivé pour 63 millions d'euros en provenance de Dortmund, a livré une excellente prestation contre Everton, victoire 5 buts à 1. Aubameyang qui ouvre son compteur personnel d'une jolie pichenette. Aubameyang parti en Allemagne, c'est Salomon Kalou qui enfile les habits de buteur africain prolifique. L'Ivoirien de 32 ans a permis au Hertha Berlin d'arracher le match nul contre Hoffenheim. Un but partout, il s'agit du 8e but de la saison pour Salomon Kalou.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Et oui, Boston, leader de la conférence Est, s'est imposé sur le fil dimanche contre Portland, 97-96, grâce à un panier à la dernière seconde du pivot Al Horford, tandis qu'Oklahoma City a été surpris par les Lakers de Los Angeles, une défaite 104-108. Toronto, facile vainqueur de Memphis, 101-86.
Et puis Nicolas, évidemment, l'événement de la nuit aux États-Unis, c'était le 52e Super Bowl en football américain.
Eh bien, ce sont les Eagles de Philadelphie qui ont créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la NFL en s'imposant dimanche lors du 52e Super Bowl. 41-33, ils battent les New England Patriots, évidemment, de Tom Brady, au terme d'un match excellent de bout en bout.
Merci bien, Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui continue sur VOA Afrique et nous passons maintenant à notre tranche magazine. Jacques Aristide, toujours avec vous de Washington. Cap d'emblée sur le Tchad, où une grève générale décrétée il y a une semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement touche désormais le secteur privé et a été massivement suivie ce lundi à N'Djamena, la capitale, là où nous retrouvons notre correspondant André Kodmajingar.
Ces deux jours de grève visent non seulement à soutenir les travailleurs touchés par la réduction des salaires, mais aussi un signal fort contre le taux excessif des impôts sur les revenus des personnes physiques prévus dans la loi des finances 2018. Les activités dans la ville de N'Djamena tournent au ralenti. Pas d'engouement devant les sociétés de téléphonie mobile et les banques de la place qui, d'habitude, grouillaient de monde. Sauf les guichets automatiques fonctionnent. Quelques clients rencontrés devant les banques se bousculent pour exprimer leur mécontentement dans le micro de VOA Afrique.
Très alarmant. Il faudrait effectivement que le gouvernement là, comprenne que le peuple est en train de souffrir.
J'ai des urgences, je suis venu chercher un peu de sous. J'ai mené à la banque et permis. Depuis 2014 à 2017, le gouvernement s'est endetté à plus de 800 milliards. Mais 2014 à 2015, nous n'avons pas encore de crise. Et ils ont pris ces bons-là, ils ont fait quoi avec?
Pour nous, clients, ça pèse sur nous parce que moi, je quitte Moudou, je voulais repartir. Et ce système m'a bloqué.
Le président de la commission formation et communication du Conseil national du patronat tchadien trouve cette grève légitime. Mahamat Tayer Kirela.
Le droit de grève étant reconnu à ceux-ci par une loi, nous, employeurs, nous prenons acte de cet état d'âme. Ils ont réagi parce que déjà, il y a une loi et nul n'est censé l'ignorer. C'est l'extérieur qui nous dit qu'il faut 30 milliards et il faut taper sur les employés pour prendre 30 milliards. C'est très douloureux.
Vu la détermination des travailleurs d'aller jusqu'au bout de leurs revendications, le gouvernement menace déjà de sanctionner les grévistes. Mahamat Mokhtar Ali, ministre de la fonction publique.
Grève, moyen légal reconnu aux travailleurs pour réduire drastiquement les capacités productrices d'une administration lorsqu'elle est déclenchée sans limite et sans contrôle. Dans tous les cas, le décret 687 sera appliqué, ainsi que la loi 32 aux agents publics absents de leur poste de travail.
Des menaces qui n'entament en rien la détermination des travailleurs, déclare le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, Barka Michel.
C'est une agression contre les travailleurs lorsqu'il dit qu'il faut leur appliquer la loi 32. Une loi que nous avons attaquée au niveau du Bureau international du travail et le Premier ministre et son gouvernement ont accepté de faire une relecture de cette loi. Nous, on est dans une grève illimitée. Hein. Il peut ne pas payer le salaire pendant 10 mois. Ça lui fera une plus grosse économie.
Les médecins qui acceptent le principe de service minimum dans les hôpitaux pour une durée d'une semaine, conformément à la recommandation de la plateforme syndicale revendicative, menacent déjà d'aller en grève sèche après le 6 février si aucune solution n'est trouvée. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel, ce mardi 6 février, juste après les nouvelles, pour une discussion avec une Congolaise exemplaire, Solange Niamoulissa, journaliste et militante des droits humains qui milite en particulier contre la violence domestique ou violence familiale. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Direction maintenant la République démocratique du Congo. La reprise des violences communautaires en Ituri s'est soldée par au moins 30 morts dans cette province du nord-est du pays. Cette nouvelle flambée de haine entre Emma éleveur et Lendu agriculteur est un rappel brutal pour les Congolais et de leurs partenaires internationaux des affrontements meurtriers entre ces deux ethnies qui avaient entraîné une opération militaire inédite de l'Union européenne en 2003. Nikez Kibel-Beloka a écrit un ouvrage sur le sujet, Ituri, de la guerre identitaire au pillage des mines d'or de Kilomoto par des multinationales anglo-saxonnes, c'est le titre. Morgane Guerriec s'est entretenue avec lui. Nous écoutons Nikez Kibel-Beloka.
Les Ma ont attaqué, les Lendu ont répliqué, mais ils se sont battus entre les deux communautés.
Qu'est-ce qui oppose ces deux communautés?
Les deux communautés ont vécu et vivent ensemble. Le problème part d'abord des revendications des terres. De façon générale, les Lendu pensent qu'ils ont été dépossédés par les Ma.
Les Ma sont des éleveurs et les Lendu sont des agriculteurs.
Effectivement, vous savez, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, c'est des conflits récurrents. Il suffit que la vache de l'éleveur aille brouter dans le champ des cultivateurs, ça pose des problèmes. Donc on ne peut pas parler à ce niveau d'une résurgence des conflits. Le conflit est latent, le conflit vit avec toutes les deux communautés.
Alors des analystes avancent aussi que cette hostilité remonte à la période coloniale.
Il y a une thèse laissée par des colons comme quoi les Lendu étaient un être inférieur, apte aux travaux manuels. Par contre, les Ma, c'était un être civilisé qui pouvait mieux comprendre la science. Il s'est créé un clivage où vous avez une majorité des Ma qui ont étudié par rapport à une minorité.
Ce conflit entre Ma et Lendu ne date pas d'hier. En 2003, il avait déclenché l'intervention de la force militaire européenne Artemis. Pourriez-vous nous rappeler ce qui s'était passé à l'époque?
Les hommes d'affaires Ma ont chassé les Lendu sur les terres que les Lendu considéraient comme les leurs depuis l'époque coloniale. Les Ma ont utilisé l'armée ougandaise et qui a agi contre les Lendu. Et les Lendu se sont vengés en brûlant presque 350 pieds de café des Ma, détruisant des maisons. Voilà l'élément déclencheur.
Et qu'avait permis l'intervention européenne Artemis?
Il y avait une disproportion de force parce que les Lendu attaquaient la nuit, avaient des machettes, des flèches. Et comme les Ma étaient soutenus par l'Ouganda, bon, il y a eu au bas mot 50 000 morts, ce qui a fait que Artemis, la force française, est venue déblayer les terrains pour permettre à l'actuel MONUSCO de s'asseoir un peu pour amener la paix.
La situation pourrait revenir à ce niveau de tension aujourd'hui?
L'avantage qu'il y a à Ituri, c'est que quand les communautés sont en conflit, il y a des notables. Chaque communauté appelle ses enfants au calme et finalement ils se retrouvent pour résoudre les problèmes assez pacifiquement. Donc je ne pense pas que ça va prendre l'ampleur de 1999 à 2002.
Nikèze Kibeluka, directeur du journal Les Coulisses, il était en ligne de Beni en RD Congo.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le golfe de Guinée, de nouveau le théâtre d'actes de piraterie maritime. Un pétrolier avec un équipage indien de 22 membres ne donne plus signe de vie depuis dimanche. Le navire MT Marine Express transportait 13 500 tonnes de pétrole et mouillait à Cotonou au Bénin avant de disparaître. Avant sa disparition, le MT, pour nous faire le point, pour une analyse, Raissa Gironda s'est entretenu avec le directeur de l'US Africa Cyber Security Group, Omar Haruna.
Oui, en effet, il faut dire que cet événement n'est pas singulier parce que déjà en janvier, il y a un autre navire qui a été pris au fait dans les mêmes environs au large des côtes du Bénin. Et les membres d'équipage en majorité étaient indiens et ont été relâchés 6 jours plus tard. Donc ça devient de plus en plus coutumier et je crois qu'il faut que nos autorités, pas seulement les autorités béninoises, mais les autorités de toute la région prennent ce danger très au sérieux.
On se souvient de la piraterie au long de la Somalie dans l'océan Indien qui a complètement disparu, mais la menace, elle s'est déplacée dans le golfe de Guinée. Est-ce qu'il y a une urgence dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime dans la région?
Oui, il y a une urgence et il faut dire que dans le golfe d'Aden, des mesures ont été prises et ce qui a complètement dissuadé les pirates et ce qui ne se fait pas dans le golfe de Guinée. Pour moi, il y a déjà un manque de moyens criards au niveau du golfe de Guinée. Il faut que nos gouvernements mutualisent leurs ressources Il faut surtout aussi que les lois soient harmonisées et que l'aspect répressif des lois soit clair, parce que les lois sont hétérogènes en ce moment dans le cadre de la piraterie maritime au niveau de nos institutions en Afrique.
Donc selon vous, il pourrait y avoir une solution commune africaine pour mener à bien cette lutte ?
Il doit y avoir une solution commune. Et dans ce sens déjà, il y a des programmes qui étaient en place. Par exemple, au niveau entre le Nigeria et le Bénin, il y a ce qu'ils appellent un projet de prospérité dans le golfe de Guinée qui, au fait, permettait au Nigeria et au Bénin de mettre ensemble leurs ressources contre la piraterie. Mais aussi, on a besoin de l'appui des partenaires étrangers. Parce que, vous savez, le golfe de Guinée est ce qu'on appelle en anglais « high traffic ». Et si vous vous rendez compte qu'à peu près 25% du pétrole vers l'Amérique du Nord vient de cette région, il faut essentiellement qu'il y ait un partenariat entre ces pays et les États-Unis. Mais aussi la France, je sais que la France avait un dispositif dans la région qu'ils ont appelé Corimb et qui s'occupait des intérêts de la France parce que effectivement ils ont des intérêts dans cette zone-là quand il s'agit du pétrole.
Oui, à côté de la piraterie, il y a l'émergence d'un trafic en tout genre. Les côtes africaines sont littéralement pillées par des pays qu'on connaît qui viennent se servir dans ces eaux. C'est un vrai problème selon vous ?
C'est un problème parce que ça va tuer déjà le commerce océanique dans la région. Et le Nigeria a une grande responsabilité parce que quand les pirates vont sur les bateaux, c'est pour siphonner au fait le pétrole qui sort des puits nigériens. C'est important que ces pays-là prennent leurs responsabilités d'abord, mais surtout que nos pays africains prennent la mesure de la situation.
Voilà, on écoutait Omar Haruna, directeur de l'US Africa Cyber Security Group et ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Comme promis, pour clore cette édition, nous vous proposons une petite visite guidée au zoo d'Abidjan, un parc qui renaît de ses cendres après avoir connu le pire durant la crise post-électorale de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Notre guide n'est autre que notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tounkara.
Le zoo national d'Abidjan, un parc qui renaît de ses cendres. La crise post-électorale de 2010 et 2011 est passée par là. Le zoo, une victime collatérale de cette crise. Des animaux sont morts ici de faim quand les armes crépitaient en 2011 aux quatre coins d'Abidjan. Docteur Kané Samouka est le directeur des lieux depuis 2014.
Pendant la crise, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts, puisque si vous savez que les hommes se disputaient les dernières baguettes de pain dans les boutiques, il n'y avait pas de manger non plus pour les animaux. Surtout les carnivores, les derniers lions du zoo sont morts dans les années 2010-2011.
Plus de 600 millions de francs CFA, c'est ce que le gouvernement ivoirien a injecté en 2013 et 2014 dans la réhabilitation du zoo et l'importation de certaines espèces animales, comme le lion qui rugit désormais dans le parc.
Le gouvernement a fait un effort financier particulier en débloquant 613 millions de francs CFA dans le zoo. Les infrastructures réhabilitées, il y avait les bâtiments à usage de bureaux, et les enclos, les bassins, les cages des animaux qui ont été réhabilités pour la plupart. Et on a donc renforcé les effectifs animaux en important donc trois lions, un mâle, deux femelles de l'Afrique du Sud en 2015.
Depuis quelques mois, le zoo d'Abidjan est devenu plus attractif et les visiteurs ne boudent pas leur plaisir.
Nous sommes venus voir un peu les animaux. Ça fait au moins plus de deux fois que nous venons ici. Et c'est vraiment un plaisir de venir voir un peu les animaux que nous n'avons pas l'habitude de voir, de rencontrer dans la vie courante. Et vraiment, ça fait plaisir. On a vu un peu les lions, les zèbres, l'autruche, les babouins et les gorilles.
Lions, panthères, chimpanzés, éléphants et cette tortue de 118 ans, autant d'espèces animales que l'on peut trouver dans ce zoo qui ambitionne de devenir l'un des plus grands sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore ce numéro du Monde aujourd'hui. Gisèle Morissin a dirigé la mise en onde. C'était Alfredo Santos à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique et la conversation continue sur voaafrique.com.